Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé.
Un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas.
Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés, me nourrissant à chaque seconde sa douceur et sa beauté.
Encore des mots, toujours des mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots. Mais
je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime
le plus fort que je peux.
Bonjour tout le monde, nous voici comme prévu pour cette nouvelle émission de 50 nuances d'amour. Alors on part avec aujourd'hui un invité qui s'appelle Paul. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors Paul, tu as eu la gentillesse et tu as la gentillesse de bien vouloir participer à l'émission et d'apporter ton témoignage.
C'est ça, exactement.
Une thématique relationnelle amoureuse. De quoi tu vas nous parler Paul ce soir ?
Eh bien, aujourd'hui,
regarde ton petit
le thème du jour, c'est nos opinions sont très éloignées sur beaucoup de sujets.
Ok. Donc, l'idée, c'est que tu veux parler d'une relation qui existe actuellement ou qui est terminée ?
Qui est fraîchement terminée. Depuis 6 mois, ouais.
D'accord. Alors, donc, est-ce que cette différence d'opinion, ce sujet-là, est-ce que c'est, entre autres choses, ce pourquoi elle est terminée, cette relation ?
En partie, oui.
Oui, en partie.
Ouais.
D'accord. Ok. Alors, raconte un petit peu quelle a été pour toi la problématique par rapport à ce sujet du fait que vous aviez des opinions différentes.
Ouais, bah, cette relation elle a commencé il y a à peu près 5 ans maintenant.
Ouais.
On s'est rencontrés comme ça, comme beaucoup de monde à notre époque. Et
ouais.
On s'est fréquentés au début, on est allé boire un verre et puis ça a continué. On s'est vu une fois, deux fois, trois fois.
Mmh.
Et forcément, au fil des discussions, on a bien vu que nos opinions sur à peu près tous les points étaient opposées.
D'accord.
Mais on a quand même continué à se voir parce que, tu sais, après, c'est une question de feeling. Hein. T'es avec quelqu'un, ça se passe bien.
Ouais.
Des fois, je pars du principe aussi que c'est un peu égoïste de se dire que tu veux fréquenter que des gens qui sont d'accord avec toi et qui pensent comme toi, en fait. Ça veut dire que tu penses que t'as la science infuse et que ta façon de penser, ta façon de voir les choses, elle est la bonne et pas les autres.
D'accord.
Et donc, du coup, on a continué à se fréquenter.
Mais alors, attends, du coup, je te coupe. Hein.
Ouais.
Et ça veut dire qu'à ce moment-là, donc, effectivement, tu avais d'ores et déjà, dès ces premières rencontres, vraiment la conscience du fait que vous étiez quand même assez opposés.
Ah oui, directement.
Dans des choses qui étaient assez superficielles comme des choses assez profondes, sur, par exemple, la vision du couple, de ce que vous aviez envie de vivre si potentiellement vous étiez en couple. Enfin, j'imagine que vous parliez de choses un petit peu superficielle et un peu plus profonde. Et
c'est
à
ça.
Chaque fois, il y avait quand même une différence assez marquée sur vos regards, sur ces choses-là.
Sur quasiment tout, en fait.
Ah ouais.
Si tu veux, autant sur des trucs superficiels, typiquement, j'en sais un peu, ça allait des opinions politiques. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, à l'époque, alors justement, elle m'a fait changer d'avis, mais à l'époque, moi, j'étais un grand fervent de la peine de mort, tu vois. Et elle, pas du tout. Elle était contre ça et tout, machin. Et du coup, c'est un sujet sur lequel, par exemple, elle m'a fait changer d'avis. Sur la façon de vivre, moi, j'ai un mode de vie qui fait que je suis quand même assez speed. Donc, j'ai un peu un mode de vie à 100 à l'heure. Elle a plus un mode de vie où on prend le temps de faire les choses, etc. Donc, on n'était pas raccord là-dessus. Ça pouvait être sur les projets de vie. Moi, je veux des enfants, donc j'en ai pas encore, mais je veux des enfants. Elle n'en voulait pas du tout. Donc voilà, pas vraiment pas la même, enfin opposé surtout en fait.
D'accord.
Et donc on a bu des coups ensemble, on a passé du temps ensemble, on a appris à se connaître aussi.
D'accord. Et alors attends, et à ce moment-là,
ouais.
toi tu t'es dit, je vais le prendre de manière positive, c'est-à-dire que c'est une manière de me nourrir, de venir nourrir mes propres opinions et potentiellement de me faire grandir, de me faire avoir, tu vois, évoluer sur mes points de vue. Tu t'es dit, je vais le prendre comme quelque chose de constructif.
Alors au tout début, c'était un peu plus naïf que ça, si tu veux. C'est que on s'est parlé et bon, on s'est vu en vrai. Moi, le premier truc que je me suis dit, c'est ah ouais, physiquement, elle me plaît, tu vois. Mmh. Enfin, c'est vrai, quand tu vois quelqu'un la première fois, le but, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui t'attire. Moi, je me suis dit, physiquement, elle me plaît beaucoup. Mmh. Donc, on fait le rendez-vous. Pendant le rendez-vous, bon, bah, quand tu discutes, quand tu apprends à te connaître, tu sais pas où ça va mener. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est un peu comme si tu rencontrais quelqu'un et que tu disais, bah, la personne-là, ça va devenir mon meilleur ami. Tu le sais pas. Mmh. Tu découvres la personne, tu discutes, t'apprends à te connaître. Et après, la relation devient ce qu'elle devient. Donc, je savais même pas où ça allait mener. Donc, on a juste discuté normalement, comme tu vas boire un verre avec quelqu'un. Et bon, forcément, au premier rendez-vous, tu évites un peu les sujets houleux. Quand tu vois que tu n'es pas trop d'accord et tout, bon, tu passes à autre chose. Mmh. Et donc voilà, ça s'est fait simplement. On a eu quand même un bon feeling, on a rigolé parce que pour le coup, on n'avait pas que des divergences, on avait aussi des points communs. Et dans les points communs, il y avait l'humour. Donc du coup, on a bien rigolé et on s'est dit, bon, on se revoit. Et en fait, on s'est revu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au bout d'un moment, par contre, bon, bah, quand tu vois quelqu'un plusieurs fois, tu te dis, ça ira peut-être plus loin cette fois-ci. Et c'est là où les vrais sujets ont commencé à se poser. Ouais.
D'accord. Donc, à un moment donné, donc vous êtes rentré dans une relation plus intime, une relation, voilà, ok, officiellement. Et à ce moment-là, ces sujets qui étaient divergents et au départ qui étaient pris un peu de manière un peu naïve, comme tu dis, à partir de quand ça a commencé à poser problème ?
Alors, en fait, on a eu, il y a eu plusieurs stades. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, je dirais que la première étape, c'est tu fermes les yeux, tu fais comme si ça n'existait pas, tu te dis, bon, de toute façon, pour ce qu'on se voit et tout, on va pas partir sur des trucs comme ça, on va plus partir sur le côté positif. Mmh. Après, bon, au bout d'un moment, tu passes du temps ensemble, c'est des sujets qui viennent sur le tapis et tu prends un peu sur toi. Tu te dis, bon, je suis pas totalement d'accord, mais vas-y, on va un peu tempérer les choses et tout. Puis ensuite, bon, bah, au bout d'un moment, tu es un peu plus en confiance, tu rentres un peu plus dans l'intimité et du coup, tu vas un peu plus, t'affirmes plus tes positions. Tu vas dire, ouais, bah non, moi, je suis pas d'accord avec toi et tout, machin. Et du coup, là, on est rentré dans une étape où c'était un peu du clash, quoi, parce que bah, on restait un peu bloqué sur nos positions tous les deux. Bah moi je pense ça, ouais mais non, moi je pense ça, ouais mais tu fais ça, ouais mais il faut pas faire ça, mais si, il faut le faire et tout. Et après, bah au bout d'un moment, la question s'est vite posée de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on est capable de passer outre, et je pense que c'est ça la clé de tout ça, c'est est-ce qu'on est capable de passer outre et d'en discuter intelligemment et de transformer ça en un bon échange et en une force, ou est-ce qu'au contraire, bah, en fait, c'est un élément bloquant et on arrête, quoi. Et du coup, nous, à ce moment-là, alors des fois, il y a des trucs, on dit souvent, la tête dit quelque chose, le cœur dit autre chose, et bah, c'était un peu ça, c'est que nous, la tête disait, bah, arrête, c'est mort, vous êtes trop différents et tout, mais il y avait quand même cette attirance.
D'accord, parce que malgré le fait que vous ayez cette conscience de dire à un moment donné, on peut en faire une force et faire en sorte que ça tire notre couple vers le haut, tu vois, de dire vous aviez cette possibilité là, apparemment ça n'a pas pris ce chemin là.
C'est-à-dire ?
Bah, tu dis à un moment donné, on avait conscience qu'on pouvait réagir intelligemment, tu vois, et faire que ces différences, bah, on arrive à les dépasser, qu'on arrive à mettre de la communication dessus, et puis ne pas en faire une source de conflit perpétuel et permanente. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Vous n'avez pas réussi.
Alors si, sur beaucoup de sujets, si. D'accord. C'est qu'en fait, tu vois, bah, typiquement, je te prenais l'exemple de la peine de mort tout à l'heure. C'est un sujet, bon, voilà, c'est nous, hein, dans le cadre de notre couple, ce n'était pas le sujet. Tu ne sépares pas de quelqu'un parce que tu n'es pas d'accord sur la peine de mort. Tu vois. Donc, c'est un truc sur lequel on a discuté, où moi, au début, j'étais pour à fond. Elle m'a exposé ses arguments. Elle m'a dit, ouais, mais attends, est-ce que tu as pensé à ci, ça, ça, ça. Et en fait, bah, y arrive un moment, encore une fois, c'est un peu de l'humilité de se dire... Bah, les points de vue de la personne, tu sais, tout le monde ne voit pas la chose de la même façon. Et en fait, bah, c'est vrai que je n'avais pas vu la chose de cette façon. Et bah, c'est vrai, en fait.
Alors, ok. Donc là-dessus, sur des sujets comme ça, qui sont des sujets qui ne sont pas en lien avec le couple en tant que tel, là, vous avez réussi, enfin, de ce que tu me dis, à vous tirer vers le haut et à vous faire entendre respectivement vos points de vue et peut-être même vous faire évoluer sur ces sujets-là. Mais là où ça devient un petit peu plus compliqué, et qu'est-ce qu'il en a été quand il s'agissait vraiment de... notre fonctionnement dans le couple, comment on voit le couple, comment on voit le quotidien du couple, comment on voit potentiellement la perspective des enfants, etc. Est-ce que quand vous étiez dans le dur de la relation de couple, est-ce que vous avez réussi à vous tirer vers le haut ou est-ce que ça a été plus compliqué ?
Alors nous, du coup, dans le couple, il y avait deux sujets. Le sujet, c'était surtout le quotidien. Comme je te disais, moi, j'ai un rythme de vie assez speed. J'aime bien faire plein de choses. J'aime bien beaucoup sortir, découvrir des choses, faire du sport, etc. Et elle, moins... Et donc, du coup, ça a été un premier gros sujet de... Bah, le truc, c'est que moi, je continue, j'avais pas envie d'arrêter de faire ce que je faisais. Elle n'avait pas envie de me suivre dans ce que je faisais, et du coup, en fait, on passait plus de temps ensemble, quoi. Parce que du coup, le temps que tu passes à faire quelque chose, si tu le partages pas avec la personne, du coup, c'est du temps où t'es pas avec la personne. Mmh. Et donc, oui. Du coup, ça a été un gros sujet qui, pour le coup, on n'a jamais réussi à passer au-dessus.
Tu sais que ça, c'est intéressant. Si un jour tu veux revenir sur une émission, ouais. Ce sujet-là, qui est de dire quel temps on passe ensemble, est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord sur le temps imparti pour le couple et le temps où chacun se ressource de notre côté, ça aussi, c'est. C'est un truc, on n'imagine même pas l'impact dans la relation de couple. Et apparemment,
c'est hyper important, je trouve. Et c'est de choisir, est-ce que. Mmh. Et là-dessus, tu vois, on n'était pas d'accord. Moi, j'étais plus du parti que quand tu es en couple, tu fais les trucs à deux. Donc, ça veut dire que tu vas chez des amis, tu vas à deux. Alors, tu fais pas tout à deux. Tu vois, c'est sûr que. Enfin, moi, j'aime bien restaurer des voitures anciennes. C'est sûr que c'est pas elle qui allait se mettre à allonger sous la voiture avec moi. Mais il y a une bonne partie de tes activités que tu dois faire à deux. Elle était plus du parti que chacun ses activités. Et ça se passe très bien, quoi.
D'accord.
Mais le problème, c'est que quand tu as une activité qui te prend 2 heures dans la semaine. C'est pas grave, tu fais ton truc pendant 2 heures et après, le reste du temps, tu le passes ensemble à faire des trucs. Mais quand l'ensemble de tes activités ne correspondent pas, que les envies de voyage, que les envies de loisirs le dimanche, etc., ne correspondent pas, tu passes du temps quand ensemble ?
Donc, alors, cette question du temps ensemble et cette question du temps chacun de son côté, ça a été finalement le point d'achoppement. C'est-à-dire qu'apparemment, ça a été le point de rupture.
C'est ça, ouais. un des gros points de rupture, je pense.
Un des gros points de rupture. D'accord. Ouais.
Et après, le deuxième point, c'était aussi les projets sur le long terme, en termes de mariage, d'enfants, etc. Et en fait, ça, alors, c'est quelque chose qui, je pense, sur lequel on aurait pu trouver un compromis, mais ça n'aurait pas été un compromis très sain, dans le sens où il y en aurait un des deux qui aurait été obligé de s'adapter à l'autre. Et tu vois, c'est pas évident, parce que ça veut dire que si t'en as un qui s'empêche d'avoir des enfants, alors que quand t'as envie d'enfant, tu le sens, c'est pas sain, t'as envie d'avoir des enfants, et au final, tu les as pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pas cool. Mmh. Et d'un autre côté, quelqu'un qui a pas envie, qui ressent pas ce besoin de maternité ou de paternité, parce que ça peut aller dans les deux sens, c'est pas évident le ou la forcer, tu vois.
Oui,
quand il naît, tu fais comment? Ça prend du temps, ça court partout, ça salit tout. Si t'en as pas envie, c'est compliqué, quoi.
Et du coup, votre relation a duré combien de temps?
4 ans et demi.
Est-ce que tu dirais que la rupture est arrivée au bon moment, ou elle aurait dû arriver avant, ou est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous vous êtes fait plus de mal qu'autre chose, à force de savoir que finalement vous n'avanciez pas avec les mêmes, tu vois, avec les mêmes points de vue sur des choses importantes, et que vous n'arriviez pas à vous concilier sur ces sujets-là? Est-ce que la rupture aurait pu arriver plus tôt, à ton avis, ou est-ce que il fallait que ça mature dans votre tête et que vous vous rendiez compte vraiment qu'il y avait vraiment des incompatibilités, hein?
Alors moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment, une histoire de temporalité, si tu veux.
D'accord.
C'est que nous, en fait, on a eu beaucoup de phases, tu vois. On a eu des phases où tout était super facile, et des phases où on s'engueulait beaucoup, des phases où ça redevenait super cool, des phases où on se rengueulait beaucoup, et bizarrement, on s'est séparés sur une phase où ça allait nickel, tu vois. C'est-à-dire qu'au quotidien, on se disputait jamais. On s'engueulait pas au moment où on s'est séparés. Ça faisait peut-être 6 mois qu'on s'engueulait pas. Nickel, tu vois, on se disputait pas du tout. Et en fait, je pense qu'on a eu la chance. Donc, c'est pour ça que la temporalité, c'est difficile de te répondre. Parce que ça a duré 4 ans et demi. Pour certains, ça va être 4 ans et demi de gâché. Moi, je le vois pas du tout comme ça, tu vois. Moi, j'ai partagé mon quotidien pendant 4 ans et demi avec quelqu'un qui était super, tu vois. On a passé des super moments. Je pense, enfin, j'espère, et de ce qu'elle me dit, je lui ai apporté des choses. Elle, en tout cas, moi, elle m'en a apporté énormément, tu vois. Et du coup, c'était pas du temps de perdu. C'était du temps de partager, en fait. Et à partir du moment où t'as pas de regrets et où tu te dis, on n'était pas fait pour être ensemble, mais la personne est quand même une bonne personne, et les moments étaient bien, et on s'est soutenus, et on a eu quand même beaucoup de kiff, c'est pas perdu, c'est de toute façon.
Apparemment, c'est bien, parce que finalement, vous avez des incompatibilités, mais vous avez vécu quand même un quotidien qui était relativement bienveillant, heureux.
Ah oui,
voilà.
Oui.
Donc c'est bien. Effectivement, je te demandais ça parce qu'il y a des couples qui se maintiennent ensemble pendant des années, qui sentent à un moment donné que... C'est pas possible, en fait, ils n'arriveront pas à construire quelque chose de joyeux, de bienveillant, et pour autant, ils se maintiennent, et ils se maintiennent des années. Mmh. Et là, on peut parler de temps, entre guillemets, gâché, parce que le couple n'évoluant plus, souvent, les personnes font face à leur peur, à leur résistance personnelle, qui font qu'elles ne vont pas de l'avant et ne se séparent pas. Donc là, on peut parler d'un petit peu de temps gâché, puisque la personne a fait face à ces difficultés, et elle n'a pas mis en œuvre des choses pour avancer et soit se séparer, soit faire évoluer le couple. Vous, à partir du moment où c'était encore des temps joyeux, effectivement, il n'y avait pas lieu de se séparer avant, et ces 4 ans et demi étaient nécessaires pour prendre cette décision, je pense.
Je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui ne se séparent pas, parce que des fois, c'est plus difficile d'arrêter que de continuer, tu vois. Et en fait, l'erreur, c'est que c'est un peu toujours pareil, c'est que des fois, C'est comme si tu étais assise sur une chaise, tu as un clou qui est planté dans ta fesse, et en fait, tu sais que tant que tu es là, le clou, il te fait pas mal, et c'est si tu te lèves, c'est là que ça va
mais
faire
absolument,
mal. Quoi.
Absolument. En fait, il y a des raisons pour rester, il y a des raisons pour se séparer, et il y a un temps, en fait, de maturation. Pour faire le deuil de certaines choses, pour accepter certaines autres choses.
Bah, puis aussi et accepter que la personne refasse sa vie et toi d'être prêt aussi, tu vois, parce que c'est pas évident. Tu te dis que bah, la personne, si elle est plus avec toi, elle va être avec quelqu'un d'autre, tu vois. Donc est-ce que tu es prêt et tu as envie de voir la personne avec quelqu'un d'autre? Et toi, est-ce que tu as envie de partager ton intimité, ton quotidien avec quelqu'un d'autre?
Il y a plein de questions qui se posent. Effectivement, est-ce que je trouverais quelqu'un d'aussi bien? Est-ce que, voilà, donc c'est un temps de maturation, effectivement.
C'est ça.
D'accord. Ouais. Et alors, du coup, une question par rapport à ça. Quelles leçons tu en retires? Parce que dans chaque expérience de vie, il y a des leçons à apprendre pour nous permettre d'aller vers quelque chose de finalement un petit peu peut-être plus simple, plus doux pour la prochaine expérience.
Est-ce que je referais ça ou pas?
Ben, si tu le refais, comment tu le refais? Enfin, est-ce que tu le refais différemment? Qu'est-ce qui se passe la prochaine fois?
Ben, moi, je pense que...
Quand tu rencontres une femme, c'est ça l'enjeu. Ouais. Comment tu vas jouer sur cet enjeu des différences?
L'entre-deux, en fait. L'entre-deux, c'est que tu vois, par exemple, aujourd'hui, par une copie conforme de moi, j'en voudrais pas, tu vois. Parce que c'est, en fait, c'est pas intéressant. Tu discutes avec la personne. Enfin, je te dis, moi, cette différence, encore une fois, elle m'a énormément appris, tu vois. Elle m'a fait évoluer en bien, je pense. Elle m'a fait devenir quelqu'un de mieux sur beaucoup de sujets. Elle m'a instruit sur beaucoup de sujets. Et du coup, tu rencontres une copie conforme de toi qui fait tout comme toi, qui a les mêmes pensées que toi, qui est au même niveau que toi, que ce soit surtout. Bah, du coup, tu t'apprendras pas, en fait, tu vas stagner. Ouais. Alors que si tu rencontres quelqu'un qui est plus calé sur certains domaines, qui te l'apprend, qui te les fait découvrir, c'est hyper enrichissant.
Alors, je suis d'accord, mais là, on part sur deux extrêmes. C'est qu'apparemment, avec ton ancienne amie, partenaire, vous étiez vraiment très différents.
C'est ça.
Là, tu me parles d'une copie conforme. On est dans deux extrêmes. On va aller sur quelque chose d'un petit peu plus tempéré, tu vois, un petit peu dans un milieu, justement, 50 nuances, tu vois, c'est qu'il y a des nuances de noir, de blanc, et puis il y a des nuances de gris. Donc, par exemple, tu rencontres la personne, on va prendre deux minutes, mais tu rencontres une personne, voilà, si tu sens qu'il y a trop de différences, est-ce qu'il y a un signal d'alerte en toi? Qu'est-ce qui va se jouer en toi?
Maintenant, oui. Ouais. Maintenant, oui, parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, tu vois? C'est quoi les piliers, les trucs sur lesquels, bah, en fait, quoi qu'il arrive, tu ne seras pas prêt de changer, tu vois? Tu ne changeras pas, et si tu changes, c'est malsain, c'est que tu n'es plus toi-même, tu vois? Et donc, du coup, de prendre le temps de se dire, bah, tel sujet, en fait, c'est non négociable. Ouais. Et c'est des trucs sur lesquels il faut être sur la même longueur d'onde, et après, il y a d'autres façons. Tu vas être flex, il faut, tu vois? Et sur ça, je suis prêt à être flex, je suis prêt à m'ouvrir, je suis prêt à changer, et je pense que c'est ça.
Et aujourd'hui, tu dirais que cette expérience t'a permis de déterminer, justement, les sujets sur lesquels tu dois être flex, fixe.
Voilà, oui, carrément.
Voilà. Et les autres flexibles, en fait, voilà, qu'on soit bien d'accord sur les termes. Cette expérience t'a permis de grandir sur cet aspect-là, de
dire carrément,
qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas.
Carrément, je pense aujourd'hui savoir qu'il y a certains trucs sur lesquels bah, c'est mort, maintenant c'est comme ça, et c'est acté. Je sais qu'en fait, d'expérience, ça se passe pas bien si on n'est pas d'accord là-dessus.
Parce que c'est qui tu es, c'est tes valeurs, et il y a des choses qu'on a envie de garder, on n'a pas forcément envie de tout faire évoluer non plus.
Ouais, c'est ça, puis tu remplis pas un verre retourné, tu vois, c'est que quelqu'un qui a quelque chose qui lui tient à cœur, qui vit pour ça, qui vibre pour ça, bah, si tu lui enlèves cette petite étincelle, bah, et que t'éteins la bougie, c'est mort, ça sert plus à rien, quoi.
Ok. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais, pour les auditeurs, une recommandation, un petit mot, un petit truc sur ce sujet-là à dire pour clôturer le sujet?
Bah alors c'est un conseil, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais au début, quand tu rencontres quelqu'un et que justement il y a ce feeling, ce truc là que t'expliques pas, tu sais pas pourquoi il est là, tu vois, bah t'as tendance à un peu t'emballer, à te dire ouais bah tout est beau, tout est rose et tout, et à occulter un peu justement certains points qui pourraient être bloquants. Bah c'est pas évident, mais faut peut-être garder les pieds sur terre et se dire bah déjà si tu m'effaces un truc, tu peux faire mal à la personne aussi, tu vois, parce que des points qui sont bloquants pour toi peuvent ne pas l'être pour l'autre. Et du coup, bah même si c'est pas toujours évident, de garder les pieds sur terre et de se dire est-ce que je suis prêt? Là, je vois bien qu'il y a un truc, il y a une incohérence. Est-ce que je suis prêt à faire quelque chose pour ça? Ou est-ce que de toute façon, il y a un moment où ça va bloquer, quoi?
Et là, tu rejoins, Paul, un sujet qu'on a déjà abordé dans les précédentes émissions. Alors, on n'a pas été très loin dans le sujet, on l'a juste abordé. C'est le temps de la rencontre. Et en fait, le temps de la rencontre est essentiel. Et moi, j'invite vraiment les gens à ne pas se précipiter sur ce moment-là. C'est un moment de découverte réciproque, justement, qui permet d'aller... se rencontrer sur des aspects très superficiels, sur des choses très, de nos loisirs, et puis sur des choses qui sont plus de l'ordre vraiment de notre intériorité, nos valeurs, tu vois, ce qu'on a envie de vivre avec l'autre, la manière dont on perçoit le monde, etc., des choses très, très profondes. Et ce temps de la rencontre, il permet effectivement d'aller rencontrer en douceur l'autre et ne pas s'engager. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui est né de mon expérience. C'est une réflexion que j'ai aujourd'hui et que je propose aux personnes que j'accompagne. C'est de dire prendre le temps de rencontrer l'autre sans s'engager trop rapidement émotionnellement, tu vois, dans quelque chose. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a besoin de découvrir l'autre et de savoir s'il nous correspond et si on a envie de faire un petit bout ensemble, un petit bout de chemin ensemble.
Et du coup, si, parce que comme je disais, des fois, c'est vrai, mais des fois, tu sais, sur le papier, ça se passe pas comme ça. Des fois, tu sais que tu vas trop vite, mais tu le fais quand même.
Ouais.
Qu'est-ce que toi, tu penses de ça quand au final, ça va trop vite et que tu as...
Ben, en fait, je pense que ça part du respect de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te respectes et tu as envie de respecter tes valeurs et tu as envie de respecter la femme ou l'homme que tu es dans la relation avec la personne que tu rencontres, tu sais prendre du recul à un moment donné. Mmh. Tu sais quand ça s'emballe, effectivement, tu sais quand le cœur prend le dessus. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, avoir cette capacité à prendre un petit peu de recul et dire okay, attends, on va y aller tranquillement. Mmh. Cette personne, si elle est là pour moi, à un moment donné, elle sera là demain, elle sera là après-demain et elle sera là dans une semaine. Tu vois, la peur, ce qui nous fait nous précipiter, c'est la peur de perdre, c'est la peur de passer à côté de quelque chose, etc. Mmh. Moi, je pars du principe que si la personne ou la situation nous est destinée, elle arrivera.
Donc c'est reculer pour mieux sauter, quoi.
Donc tranquillement, voilà, avec douceur. Tu vois, si ça nous est destiné, ça nous arrivera quoi qu'il arrive. Donc à partir de ce moment-là, on peut prendre les choses avec beaucoup plus de calme.
Ok.
Voilà. Après, c'est tout un cheminement de développement personnel derrière.
Bien sûr.
Mais l'enjeu, c'est ça. Moi, je ne crois pas au hasard, je crois au destin. Donc voilà, si c'est sur ta destinée, si cette femme, cet homme est sur ta destinée, si ça doit s'inscrire dans la durée, ça s'inscrira dans la durée. La seule chose que tu maîtrises, c'est l'instant T. Et dans l'instant T, si tu élèves ton niveau de conscience et tu sais que tu dois te respecter dans la relation de couple, eh ben, il faut que tu aies une partenaire ou un partenaire qui, a priori, te corresponde sur certaines choses qui, pour toi, sont importantes. Donc, ce que tu maîtrises, c'est le temps, la temporalité de dire, ok, je vais prendre le temps de la rencontre. Voilà.
Ok, hyper intéressant comme échange.
Merci Paul, un énorme merci pour ta participation.
Ouais, merci à toi Delphine, super cool.
Tu es le bienvenu sur tous les sujets que tu veux. Reviens avec plaisir.
Prendra nos coordonnées et avec plaisir, c'est cool comme échange et ça fait plaisir de parler avec une pro sur des sujets qu'on n'aborde pas tous les jours.
Ouais, mais c'est bien, merci. J'espère que les auditeurs vous aurez capitalisé de cet échange. Si vous avez envie de rebondir, n'hésitez pas. Donc, vous avez le Facebook News FM Couple, un Facebook qui a été une page qui a été créée spécialement pour l'émission. Donc, vous pouvez laisser des messages. Si vous avez envie d'être appelé pour participer, n'hésitez pas à laisser des messages. Vous pouvez appeler aussi en direct au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'a personne en ligne. Donc, la ligne est libre au 04 56 14 23 54 si vous souhaitez réagir pendant l'émission. Je vous mets, comme la semaine dernière, on va se mettre un petit sketch de Verino qui s'appelle 17 ans de vie commune. Et on se retrouve après pour un autre témoignage avec Éline. Éline qui a réussi à braver les embouteillages, les problématiques de circulation du jour et qui est arrivée dans les studios. Et on se retrouve avec Éline pour un témoignage assez poignant. À tout à l'heure.
Bonsoir, Montreux ! Bienvenue à mon gala. C'est vrai ? En plus, on a une période très particulière. C'est le premier gala que je présentais ce soir ici à Montreux. J'en suis très très fier, d'autant que, hasard du calendrier, je fête mes 17 ans avec ma femme. Vous êtes mignons. Vous avez fini par applaudir parce qu'il y en avait d'autres qui applaudissaient, mais j'ai vu, il y a la moitié de la salle qui a fait « ça va aller ?» 17 ans, putain, comment il tient le coup ? Il y en a d'autres qui ont fait « mais il a 14 ans !» Ouais, ça fait 17 ans que je suis avec la même femme, et c'est une bonne nouvelle, hein. Non, mais je tiens à le préciser, monsieur. Ouais, elle est cool, elle est vraiment géniale. C'est pas pour rien que ça fait 17 ans que je suis avec elle, c'est que c'est vraiment une femme formidable. Et je déconne, en vrai, c'est vraiment pour juste les femmes en couple de la salle qui font « Oh, oh, bah tu vois, bah lui, il dit que sa femme, elle est formidable. » Avec les mecs à côté, bah peut-être qu'elle l'est vraiment. Elle l'est vraiment. 17 ans, t'imagines ? Et en 17 ans, on s'est jamais engueulé. Ça va, le français mytho, là, t'es bien ? Je vous jure, jamais, on s'engueule pas, on s'est rarement engueulé. Puis je sais pas s'il y a des couples longs dans la salle, je considère que c'est long au-delà de 10 ans. Oh putain, et ça sent le bonheur à plein nez, quoi. Non, on s'engueule plus au-delà de 10 ans. Les engueulades, c'est les trucs du début, c'est les trucs mignons. Tu dis, tu veux sortir avec tes potes? Bah écoute, sors avec tes potes. Au-delà de 10 ans, il n'y a plus ça. Non, t'as trop à perdre. Tu passes directement à la menace de mort. S'il y a une petite engueulade qui décolle, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est dans ta tête, tu fais, ah, pff, en même temps, je paye que la moitié du loyer. Je t'aime, en vrai. Et nous, en 17 ans, on a un petit peu tout vécu, hein, je vais pas vous mentir, notamment sexuellement. Une période qu'on a appelée tous les deux affectueusement la période de jachère. Très sympa. 4 mois pendant lesquels on n'a eu aucun rapport sexuel. Rien du tout. 2 mois avant la naissance de mon fils, 2 mois après. Rien du tout. 2 mois avant, parce que là, ben, tu touches plus rien. 4,5 kg mon fils à la naissance. Hein. T'imagines la taille du ventre. Je n'avais plus accès à cette personne. Je ne pouvais pas. Elle était énorme. On a essayé en levrette, elle roulait sur le côté. C'était un bordel. C'est vrai. Et 2 mois après, juste parce qu'on était fatigués, j'imagine qu'il y a des parents dans la salle, faut le dire, hein, quand ton bébé est né, c'est terminé. Ah ouais, il dort pas, tu dors quand même. Et c'est-à-dire que tu fais des nuits de 20 minutes. Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste. Vraiment, tu vois ta femme nue sur un lit, ton fantasme, c'est le lit. Tu vois pas que tu gèles? Par contre, au bout de 4 mois, on n'en pouvait plus. Ça, je vais pas vous mentir, au bout de 4 mois, on était les deux. Tu es nerveusement, tu sentais... Pour moi, quand on arrive au stade où tu tousses du sperme, je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est là, la limite. Après, chacun la met où il veut. Donc on a décidé de s'organiser pour faire l'amour. C'est la première fois de notre vie qu'on s'organisait pour faire l'amour. Nous, on s'est rencontrés, on avait 17 ans. À 17 ans, il n'y a pas d'organisation. À 17 ans, j'ai cours du bio dans 3 minutes, bim. 30 ans avec des enfants, mon pote, c'est plus la même. Hein. 30 ans avec des enfants, c'est « Oh, toi, je vais te choper !» Samedi en 8 après le judo. Tu sais, des fois, tu vas chez des gens, tu vois, il y a des calendriers sur le frigo. C'est l'agenda des enfants, pas du tout, c'est un calendrier de baise. C'est juste pour voir, là, on peut, là, c'est possible. Là, si on fait vite, on peut. Par contre, on a fait ça bien. On est arrivé au restaurant. Parce que restaurant, babysitter, grande classe. Le mec, il nous a vu arriver. Le serveur, il a fait... Ah. Je crois que c'était marqué sur notre gueule qu'on avait la dalle. Je vais vous mettre une table à l'écart. J'avais l'impression que tous les clients, ils étaient derrière nous à faire... Allez, 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 allez. Et je vous jure, ça fait 10 minutes qu'on est assis l'un face à l'autre avec les yeux, mais brûlants de désir. Il y a mon téléphone posé sur la table. Il vibre. C'est un texto de la babysitter. C'est jamais une bonne nouvelle, soyons clairs. Jamais il y a une babysitter qui a envoyé un « C'est bon, j'ai retrouvé la télécommande, elle était dans les plis du canapé !» C'est pas ça. Non, toi t'as l'impression qu'elle va t'envoyer un message horrible. C'est avec elle du sang partout, en vidéo « J'ai mangé ton fils !» Ok, c'est ça que tu penses que tu vas recevoir. Eh ben moi, le message, il était pire que ça. Le message, c'était « Il y a un problème. » Sur une échelle de 1 à pute, on la met où exactement? Il y a un problème, mais quel être humain normalement constitué envoie à des jeunes parents « il y a un problème, point !» C'est pas une phrase de babysitter, on est d'accord, c'est une phrase de plombier. Là oui, avec un mec, le cul à l'air sous ton évier, « ah bah là il y a un problème, hein !» Oui, mais pas une babysitter, bordel. C'est comme si tu prenais l'avion, « Ladies and gentlemen, il y a un problème. » Tu peux pas terminer cette phrase ici, il faut que tu la finisses. Il est où le problème? Il manque une laine ou il manque des chips? Quel est le... Ou c'est un Allemand qui pilote? Quel est exactement l'enjeu? Oh mon Dieu! Le cadeau que vous venez de me faire, vous avez été tellement long sur... Un Allemand? C'est pas les Arabes normalement? Et moi, je savais pas comment réagir. J'avais envie de l'appeler, mais j'aurais pas pu appeler pour dire « Oui, bonjour, c'est pour la fin de la phrase. » Ouais, j'aurais pas non plus appelé pour dire « Hé, t'as 2 minutes pour faire tes bagages. Si je te retrouve, je te défonce !» Avec ma femme en face. « On avait dit moi d'abord. » Et finalement, ce jour-là, j'ai eu une vraie réaction de mec. Une vraie réaction de bonhomme. Je sais pas comment vous dire ça. À la base, j'ai bien conscience que je suis pas un mâle alpha. Ça va, ça fait 10 minutes qu'on se parle, on l'a tous vu. Ouais, il y a l'applaudissement de... Moi non plus. On le voit, je suis pas un dominant. Je suis pas le genre de mec, je rentre en soirée et tout le monde fait... Je sentirais pas la testostérone. Ah, je suis pas ce mec-là. Moi, je serais né il y a 3 millions d'années, tu fais... Ah, on lui laisse 5 jours. C'est un hasard si mes gènes sont arrivés jusque-là. Mais j'ai fait mon deuil de ça. Et ce jour-là, j'ai eu une vraie réaction virile. C'est la réaction du bonhomme, quoi. J'ai pris le portable, j'ai fait... Ah putain, il y a un problème. Ah, va falloir que tu gères.
Ok, nous revoilà. Alors, j'espère que ce petit moment détente vous aura plu. Alors, ça va commencer, je pense, à devenir un petit rituel. D'ailleurs, si vous avez des idées de sketch sur la relation amoureuse, sur la relation de couple, sur les relations hommes-femmes, n'hésitez pas à me les transmettre sur le Facebook de l'émission, donc News FM Couple. Vous pouvez me les transmettre aussi sur un portable, parce qu'effectivement, la ligne qui est les 04 56 14 23 54, sur laquelle vous pouvez réagir pendant l'émission, toute la semaine, moi je ne suis pas joignable sur cette ligne-là, donc il y a un portable, 06 15 94 36 51. Vous pouvez laisser soit des SMS sur ce portable ou m'appeler, justement pour me faire part d'informations sur des sketchs, sur des thématiques que vous aimeriez aborder, sur le fait que vous souhaitiez intervenir ou pas, intervenir pendant l'émission. Voilà, donc n'hésitez pas à me joindre sur cette ligne 06 15 94 36 51. On va passer au deuxième témoignage de la soirée. C'est un témoignage qui a trait à la perte d'un conjoint. Et effectivement, comment on se relève de cette perte et comment, en tant que femme, on imagine pouvoir reconstruire une relation de couple future par rapport à cette souffrance qu'on a traversée, cette douleur qu'on a vécue. Éline, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, Éline, est-ce que, juste pour qu'on puisse situer un petit peu ce que tu traverses et ce que tu as traversé, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations sur ce qui s'est passé par rapport à ton conjoint ?
Alors, en fait, ça a été assez soudain, en fait. Il est simplement rentré d'une soirée, après avoir bien dansé et amusé, et il s'est senti mal, et au bout de 45 minutes, il n'est plus jamais revenu.
D'accord. Voilà. Ok. Tu étais à ses côtés ?
Oui.
D'accord.
C'était 5 heures du matin, ça m'a réveillée, et j'ai essayé de l'aider, mais il s'est effondré.
D'accord. Ok. Ça s'est passé il y a combien de temps ?
Ça va bientôt faire... on vient de passer les 23 mois, donc on approche des 2 ans.
D'accord. On a passé les 20... Ok. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ces 2 ans, quasiment 2 ans qui se sont écoulés, ce par quoi tu es passée ?
Alors, premièrement, beaucoup la culpabilité, parce que quand c'est soudain comme ça et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, voilà, je suis passée par cette culpabilité parce que j'ai tenté de le réanimer pendant un quart d'heure, le temps que les secours arrivent. Et quand on ne sait pas ce qui s'est produit, et ben on se dit que c'est de notre faute et qu'on n'a pas réussi à le sauver.
D'accord.
Donc la culpabilité s'est réduite au bout de 4 mois quand on a reçu les résultats de l'autopsie, où j'ai pu comprendre que j'aurais rien pu faire et que les secours non plus.
D'accord.
Donc on se fait à l'idée que voilà, c'est pas entièrement de notre faute, mais ça reste quand même une acceptation qui est longue à passer. Et puis après, ben, toutes les étapes du deuil, oui. La colère, l'incompréhension, la solitude, c'est
Oui.
Ces étapes-là. Oui.
Ouais. La solitude, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, en fait.
Quand du jour au lendemain, on vit au quotidien avec une personne depuis plus de 9 ans, et du jour au lendemain, on n'a plus personne à la maison, c'est un vide énorme. Ouais.
Dans cette période, au début, au moment de la perte de ton partenaire, est-ce que tu as fait des choses par rapport à cette douleur, par rapport à cette souffrance, par rapport à... Est-ce que tu as fait des choses que tu ne pensais pas que tu ferais, ou est-ce que tu as vécu des choses que tu n'imaginerais pas que tu puisses vivre dans cette douleur de perdre la personne qu'on aime? Qu'est-ce que ça t'a fait toucher, en fait?
En fait, la toute première chose où j'aurais jamais pensé être capable, c'était déjà de tenter la réanimation. Mmh. On m'aurait raconté la scène quelques années avant, j'aurais dit que j'étais incapable de le faire. Mmh. Donc déjà ça, en fait, ça m'a fait un déclic en moi, comme quoi, en fait, on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas vécu un drame. Mmh. Je ne me suis pas reconnue et je sais que depuis tout ça, je ne serai plus jamais la même personne, et parce que je ne savais pas qui j'étais. Mmh. Ce que j'ai pu faire après, je n'aurais pas dit que je ne l'aurais jamais fait, mais voilà, j'ai consulté beaucoup de monde, je me suis fait suivre. Oui. Que ça soit dans du suivi psychologique ou de la médecine douce. Mmh. Bon, je connaissais pas la médecine chinoise ou des choses comme ça, et ça a été assez intéressant.
D'accord.
Ou de la méditation, non pas de la méditation, de l'hypnose. Donc voilà, j'ai fait mes premières séances d'hypnose aussi, mmh. mais j'aurais jamais dit que je le ferais pas un jour, mais voilà, ça a été mes premières fois.
D'accord.
Après, non, dire ce que j'ai pu...
Est-ce que l'idée, c'est qu'effectivement, tu as commencé à aborder ce sujet de la solitude, effectivement, oui. par rapport oui. Au manque, au vide. Oui. Est-ce que dans ces moments de manque, de solitude, de vide temporaire, hein, par rapport à, pour l'instant, effectivement, oui. dans ce que tu vis au jour d'aujourd'hui, est-ce que, viscéralement, tu as traversé des souffrances que tu ne pensais pas pouvoir traverser, des peurs, je sais pas, est-ce que physiquement tu as ressenti des choses, est-ce que ça a joué sur à quel niveau effectivement cette perte a, jusqu'où ça a été en fait?
Ben alors physiquement c'est vraiment un vide latéral, c'est bizarre, enfin c'est pas facile d'y mettre des mots, mais on a vraiment un vide profond à l'intérieur de soi. Encore aujourd'hui, j'ai le sentiment que j'ai plus aucune émotion, je ressens plus rien.
D'accord.
Je suis vide à l'intérieur. Je dis souvent que j'en suis morte à l'intérieur, mais c'est difficile à décrire comme sensation. D'accord. Mais oui, c'est vide. C'est
une anesthésie, une sorte d'anesthésie.
Ouais, ouais, mais intérieure.
Mmh. Et ça t'arrive de rigoler quand même aujourd'hui?
Oui. Ça a pris plusieurs mois, mais j'ai été très 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 bien entourée, que ça soit par la famille ou les proches, et ils ont réussi à me redonner beaucoup le sourire.
D'accord.
J'arrive à refaire des blagues. Ça c'est revenu.
Ça revient tranquillement. Ouais, mais pendant longtemps, une anesthésie de tout type d'émotion, que ce soit... En fait, la douleur était tellement intense qu'à un moment donné, effectivement...
Le corps est bien fait, en fait. Il nous éteint. Il nous éteint pour pas nous effondrer.
Mais ça, donc, il t'éteint dans la sphère émotionnelle. Mm-hmm. Est-ce qu'au niveau physique, tu as somatisé? Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont...
Physique, oui, je ne me suis pas alimentée pendant 3 jours. Donc, j'ai perdu beaucoup de poids sur les 3 premiers jours déjà et sur les mois qui ont suivi. Mm-hmm. On ne comprend pas... Enfin, moi, je ne comprenais pas pourquoi je pouvais manger et plus lui. Pourquoi je pouvais dormir et plus lui. Pourquoi... Enfin, voilà. Toutes ces petites choses-là, même physiquement, on les arrête.
Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu passes ton temps à imaginer, de dire que lui n'étant plus en vie, pourquoi toi, tu continues à vivre, à entendre, à faire, à ressentir ça, ça ou ça.
Ah,
Et ça, ça t'a habité longtemps
Ouais.
Et ça, c'était le corollaire de la culpabilité, justement, de pouvoir le ressentir, le vivre.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, je pense que ça a déjà duré sur la durée de la culpabilité, jusqu'au retour de l'autopsie. Et après, en fait, il s'est passé tellement de choses que ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres... J'ai appris à côtoyer la mort, en fait, quand on la voit déjà. Et en fait, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, que ça soit même spirituellement, que je n'étais pas du tout dans ce domaine-là avant. Mais voilà, ça c'est venu automatiquement à moi et ça m'a éveillée. Et j'ai pu découvrir d'autres sujets et je me suis beaucoup renseignée. Enfin, voilà, ça m'a permis de me mettre pas un objectif, mais j'avais un petit but tous les jours pour aller chercher des informations. Parce que la seule question qu'on a, c'est est-ce qu'il est toujours là?
Oui. En fait, ça a donné du sens. C'est une quête de sens, en fait. C'est une quête de compréhension.
Sur ce sujet-là qu'on se posait pas en fait avant, parce que ça allait très bien et on pense pas à la mort à 35-40 ans, en fait. Ça m'a ouvert sur le sujet.
Et du coup, tu dis que à un moment donné tu as été rapidement, enfin, quand est-ce qu'est venu ce besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur au travers de l'hypnose, etc. Très rapidement.
En fait, au moment où le SAMU m'a annoncé une heure. Mmh. Bon, déjà là, j'avais l'impression d'être dans un film, donc je lui disais que c'était pas possible.
C'est-à-dire à annoncer, j'ai pas compris. Ben, oui.
Moi, j'ai essayé de le réanimer. Les secours sont arrivés petit à petit à l'appartement. Mmh. Et ils ont essayé par la suite de le réanimer, mais ils ne sont pas arrivés. Donc, à un moment donné, ils ont annoncé une heure dans l'appartement, en fait, pour annoncer l'heure du décès.
D'accord.
Et au moment où elle a dit ça, j'ai tout de suite compris, en fait, que j'allais avoir besoin d'aide et que j'allais avoir besoin d'en parler.
Mais d'accord.
Instantanément. Enfin,
d'accord.
Tout de suite.
Ça s'est inscrit en toi. C'était,
je le savais. Ouais.
De l'ordre de la survie. Et du coup, alors, tu as tapé aux portes comment ? Quel chemin tu as pris ? Comment tu as décidé d'aller voir telle personne ou telle personne ? Comment ça s'est fait ?
Alors, d'abord, c'est des amis qui m'ont dit d'aller voir une psychologue ou une psychiatre. Une autre qui m'a invité à aller voir la médecine chinoise, enfin un praticien qu'elle connaissait. Donc, je crois que j'ai commencé par lui. Et ensuite, en fait, vu que l'autopsie mettait du temps à arriver, j'ai voulu aller chercher les réponses par moi-même si j'avais fait bien les choses. Mmh. Donc, j'ai recherché les pompiers qui étaient intervenus. J'ai recherché l'équipe du SAMU qui est intervenue. Donc, j'ai pu les rencontrer.
D'accord.
Et ce qui fait que les pompiers, déjà, m'ont pu me dire que le peu de temps qu'ils m'ont vu pratiquer le massage, ils ont vu que c'était correct, mais qu'après, voilà, j'ai pas le même gabarit qu'eux et je reste... Donc voilà, je ne pouvais pas me remettre ça sur moi.
En fait, tu as eu besoin d'aller les rencontrer.
Ah oui. Ben, je voulais des réponses.
Pour comprendre et pour te déculpabiliser.
Oui. Mmh.
D'accord. Et ça t'a aidé ? Ça a été utile
oui.
ou pas ?
Oui. Oui. Mmh. Oui, oui.
OK.
Et, donc après, l'équipe du SAMU, quand je suis revenue en parler donc, directement sur place, ils m'ont dit, si vous voulez, on a une cellule psychologique en fait, avec une psychiatre du SAMU. Est-ce que ça vous intéresse ? Et donc après, j'ai commencé avec la psychiatre du SAMU. Mais même ça, en fait, je n'ai pas compris pourquoi on ne me le propose pas déjà le jour J, quand ils sont là, on est sous le choc, ils savent que ça va être dur. Pourquoi ils ne nous donnent pas tout de suite une carte avec un numéro ? Appelez-la, vous allez avoir besoin.
Oui.
Et pour moi, je n'ai pas été accompagnée. J'ai dû aller chercher le besoin. Enfin, ça, je n'ai pas compris.
Et ça, tu penses que ça serait intéressant ? Ça serait une évolution intéressante.
C'est même primordial. Même aujourd'hui, j'en ai encore besoin. Et je ne suis pas accompagnée.
Oui, alors que tu sois accompagnée, bien sûr que c'est essentiel. Mm-hmm. Mais de dire que pour toi, les pompiers, dans tout type de situation,
trauma.
De trauma, de situation où il y a des morts violentes ou des accidents qui sont violents, pour toi, ça serait intéressant de recevoir tout de suite ce soutien et de dire vous avez la possibilité.
Ah, oui, bien sûr.
Et toi, tu penses que... D'accord, ok.
Soit ils nous guident vers un centre qui va pouvoir nous aider. On a quelques jours pour... Enfin, quelques jours déjà, il faut organiser les obsèques. Enfin, c'est un monde qu'on connaît. Enfin, à mon âge, en tout cas, que je ne connais pas. On découvre tout ça et il faut faire tout de suite.
En tout cas, c'est vrai que ça peut être intéressant qu'ils soient un levier, eux, parce qu'ils connaissent les effets de ces traumas derrière sur les gens qui restent et voilà, sur la psyché. Ils voient l'impact.
Ils connaissent.
Et ça pourrait être intéressant qu'ils soient un pont. Alors, c'est vrai que les sapeurs-pompiers et puis la psychologue qui est en lien avec eux n'est pas censée accueillir tous les états de détresse de toutes les personnes, mais qu'elle soit là à un moment donné. Comme, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Juste un petit moment, tu vois, de transition. Elle soit là quelques séances et qu'elle dise, effectivement, maintenant, il faut que vous alliez voir quelqu'un sur la durée.
Mais surtout, quand même, eux, ils le ressentent. Parce que moi, quand après, je les ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils en ont discuté pendant longtemps après avec l'équipe parce qu'ils étaient bouleversés. Enfin, surtout qu'ils avaient quasiment tous son âge, en fait. Donc, quand on a toute une équipe de 40 ans qui arrive et qui voit quelqu'un qui part comme ça en 45 minutes et que même eux, ils n'ont pas compris, ça les a bouleversés. À quel moment ils se disent pas qu'il va falloir m'aider ? Ça fait partie de ma colère aussi.
D'accord.
En fait.
D'accord. Donc effectivement, tu avais de la culpabilité et tu avais de la colère aussi.
J'avais tout en même temps.
Quand
on nous explique le deuil, c'est ça, la courbe puis du ça, deuil. Puis ça. Moi, j'avais les 3-4 émotions en même temps.
Mais tout à fait. Et en fait, si tu veux, c'est des intensités qui varient. C'est des durées, des temporalités. Et tu peux passer par la colère, aller vers le déni, aller vers la culpabilité, revenir à la colère. Enfin voilà, c'est tout un cheminement. C'est pas une longue ligne droite. Et effectivement, et chacun prend le temps qu'il faut, qui lui est important et qui lui est nécessaire pour effectivement traverser cette courbe du deuil. Je te propose qu'on écoute une petite musique et puis après on continue notre échange. Allez, ça marche.
Merci.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Nous revoilà avec Éline sur le sujet de la perte d'un conjoint. Éline, si tu veux bien, on peut continuer à évoquer effectivement cette quête immédiate suite à la perte de ton conjoint, ce besoin essentiel de dire que tu avais besoin d'être aidée et d'aller travailler, évoluer, te libérer sur toute la culpabilité, la colère qui arrive après ce genre d'événement, de situation. Donc l'étape essentielle, ça a été quand même les pompiers qui t'ont orienté vers cette première personne. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, les pompiers ne m'ont pas orienté sur une première personne, c'est le SAMU qui m'a orienté vers la psychiatre.
Ok, c'est ça.
Ensuite, j'avais en même temps, donc je m'étais trouvé une psychologue, donc je faisais les deux dans la même semaine, et finalement ça devenait répétitif et très très lourd. Mm-hmm. Donc j'ai arrêté la psychiatre, je suis restée sur le feeling que j'avais avec la psychologue. Et après, j'ai vu d'autres mondes, enfin j'ai fait... j'ai vu un micro-kiné pour travailler aussi sur tous les blocages que ça avait créé dans mon corps. Oui. Moi, je ne le ressentais pas parce que j'étais vide, mais j'avais apparemment le foie serré, j'étais toute contractée un petit peu de partout. Mm-hmm. Et puis après, j'ai tenté donc l'hypnose. D'accord. Et là, j'ai encore découvert autre chose après. Elle m'a orientée vers un médecin qui est à l'origine, qui fait de l'anesthésie sous hypnose.
Oui.
Donc il a arrêté cette pratique et maintenant il a développé un concept, alors j'avais pas prévu de parler de ça, donc il faut que ça revienne, TCH, c'est de la transcommunication hypnotique. C'est ça, et du coup qui permettrait, il fait des séances en groupe et qui permettrait de pouvoir rentrer en contact avec des défunts.
D'accord. Ça pourrait être intéressant de faire un sujet là-dessus,
genre,
même si...
Je suis très calée. Ben voilà. Enfin, j'en ai fait deux, du coup.
Et en fait, j'allais dire, on sortirait peut-être un peu de la thématique de l'émission, et pour autant non, parce que quand il s'agit de parler avec son partenaire et d'essayer d'être en connexion avec son partenaire, sur l'après-vie, ça fait partie, effectivement, d'un sujet tout à fait intéressant et tout à fait connecté au sujet, à l'émission, quoi, au propre de l'émission. Ok. Aujourd'hui, par rapport à là où tu en es de ces deux ans de vie sans ton conjoint, est-ce que, donc effectivement, il y a eu toute cette colère, cette culpabilité, cette tristesse, ce désespoir profond que tu as traversé certainement, dans des mesures que je ne peux ressentir, parce que moi-même, je ne l'ai pas traversé, mais je peux le comprendre. Est-ce que ça t'a permis de découvrir des choses dans un aspect positif? Est-ce que tu as découvert des ressources en toi, des choses insoupçonnées qui sont issues de cette...
Le fait que je suis capable. J'ai, en fait, la solitude, c'est vraiment un sentiment qui m'effrayait depuis toujours. J'ai jamais voulu faire de choses seule. Je suis arrivée au monde à deux, j'ai un frère jumeau, donc j'ai jamais été seule de ma vie. Avant ma relation donc, avec mon conjoint, j'avais eu aussi une longue histoire de 9 années avec mon ex-compagnon. Donc voilà, à partir de 15-16 ans, j'ai toujours été en couple et j'ai jamais été seule. Et là, soudainement de m'y retrouver, ben, je me suis confrontée à l'émotion et à la situation qui m'effrayait le plus. Et on m'a beaucoup encouragée, voilà, j'en suis capable. J'ai essayé, en fait, j'ai un tel profond respect pour mon conjoint que, étant donné que tous nos projets s'étaient éteints avec lui, j'avais plus qu'un seul objectif dans ma vie qui me restait, c'était de pas le décevoir. Et vu qu'il n'arrêtait pas de me dire, quand tu veux faire quelque chose, n'attends pas que quelqu'un soit disponible, sinon tu ne fais jamais rien. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mission qui me laissait après lui. Et du coup, je me suis donné l'objectif que j'en serais capable pour lui, et sachant qu'il est pour moi toujours là, de faire des choses seules. Donc, bricoler, ça, on pourrait rentrer encore dans un autre débat. Mais voilà, la chose la plus dingue que j'ai pu faire, du coup, toute seule pour lui, donc en soi un peu avec lui, c'est de le ramener, lui rendre hommage en Australie, parce que ça lui tenait à cœur d'y retourner et on n'a pas eu le temps.
D'accord.
Donc je suis partie 3 semaines toute seule.
D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui était inconcevable avant son départ.
Non, jamais, mais encore moins à l'autre bout de la planète.
D'accord.
Non, j'aurais jamais pu faire ça.
Donc là, on peut dire que tu as grandi au travers de cette épreuve sur cet aspect-là. Ça t'a permis de découvrir cette richesse en toi, en fait.
C'était aussi le but de faire ce voyage-là, c'était apprendre à savoir qui j'étais. Étant donné que j'avais bien compris que je ne savais pas qui j'étais avant le drame, là, j'avais besoin d'aller me reconnecter en fait, à la vie et à moi. J'avais besoin de savoir de quoi j'étais capable.
D'accord. Et alors, tout à l'heure, tu parlais du rapport à la mort.
Oui.
Voilà, tu disais qu'effectivement, c'est des choses... on passe tous par là. A priori, si on n'est pas en lien assez précocement avec une personne, soit qui décède, soit un accident de la vie, soit une maladie de nous ou d'un proche, on ne se pose pas trop la question avant 30, 40 ans. Enfin, quand on commence à sentir, effectivement, je trouve que 40 ans, c'est à peu près l'âge où, si on n'a pas connu trop de désagréments avant, on commence peut-être à y réfléchir parce qu'on voit certaines choses dans notre corps qui évoluent et on fait face à la finitude de la vie et de l'existence. Donc toi, tu t'es confronté à ça, enfin on t'a confronté, la vie t'a confronté à cette notion-là que tu avais a priori pas trop visité jusqu'à présent.
J'avais connu des décès, le frère de ma meilleure amie, mes grands-parents, mais voilà, j'avais pas un affect proche.
Les grands-parents, c'est dans l'ordre des choses.
On n'avait pas construit une proximité entre nous, mais enfin un lien fort, mais parce qu'on est une grande famille, c'est compliqué. Mais là, la perte du conjoint ou la perte d'un enfant ou la famille très très proche, j'ai jamais eu aussi proche. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. On n'avait pas d'enfant, donc je ne peux pas savoir, c'est ce que j'explique à ma belle famille, je ne peux pas comprendre la perte que vous avez, parce que je ne sais même pas ce que c'est que d'avoir un enfant, mais j'imagine à quel point c'est dur. Mais aujourd'hui, mon conjoint, c'était mon quotidien et c'était mon avenir. Et je pense, pour moi, du moins, c'est la plus grosse perte. J'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde, même en dehors de ma famille, parce que ma famille, je ne vis plus avec eux. Ce n'est plus mon quotidien et ce n'est pas mes projets de vie. C'est peut-être dur de dire ça, mais je vivrai moins difficilement, je pense, la perte d'un des membres de ma famille que de mon conjoint.
Et du coup, après, toutes tes opinions sont respectables. C'est vraiment, il n'y a pas d'enjeu de jugement ou de dire ça se dit ou ça ne se dit pas. Chacun vit son passage sur Terre comme il l'entend, avec sa manière de voir la vie. Mais du coup, dans ce rapport à la mort, qu'est-ce que ça t'a fait toucher du doigt? Ta propre peur, une peur viscérale de l'après?
Justement l'inverse. Ouais. Petite, j'avais peur de la mort. Au point pareil, encore, de ne pas m'alimenter, de peur de m'étouffer, tout ça. C'était passé. Et au contraire, là, alors j'ai eu au tout début effectivement des grosses crises d'angoisse parce que Il avait donc des antécédents cardiaques, j'en avais tout autant, et je me suis dit, bah, en fait, demain, c'est moi. Donc, je dormais pas parce que j'avais peur, effectivement, de mourir et que ça allait être mon tour, comme ça, soudainement, qu'on tenait vraiment à rien. Et puis, petit à petit, étant donné que le rapport à la mort s'est développé, j'ai appris des choses. Donc, la vie après la mort, je me suis beaucoup renseignée sur ça et j'ai eu le droit à des signes, des manifestations ou des synchronicités un petit peu folles et qui continuent encore. Qui, aujourd'hui, je suis convaincue, en fait. C'est même plus une croyance. La croyance, pour moi, c'est encore l'espoir. Là, moi, c'est bon, j'ai eu suffisamment de... il a bien fait comprendre qu'il était là. Donc, pour moi, c'est une vérité. Et du coup, j'ai plus peur. Parce que, d'une, je lui ai demandé de me promettre qu'il serait là quand ça sera mon tour. Et je sais très bien qu'il le fera. Et le jour où ça sera mon tour, ben, je vais le voir. Je peux qu'être rassurée. Donc, il y a quelqu'un qui m'attend. Je vais le retrouver et j'ai pas peur.
Donc ça t'a apaisé sur cet aspect-là, en fait. Donc depuis tout à l'heure, ça fait peu de temps qu'on discute, parce que l'émission est courte, finalement, ça passe vite. Mais il y a deux sujets essentiels, en fait. Le sujet de s'autonomiser, c'est, voilà, t'as été vers, tu vois, plus d'autonomie, faire des choses par toi-même. Voilà, t'as grandi énormément depuis le départ de ton conjoint, ce que tu disais tout à l'heure. T'as été apaisé dans ton rapport à la mort. Enfin, c'est deux choses extraordinaires, c'est deux choses incroyables qui se sont passées pour toi. Au jour d'aujourd'hui, donc tu es encore connecté avec lui. Comment tu envisages, alors peut-être pas encore, mais comment tu envisages de pouvoir rentrer en relation avec quelqu'un de nouveau? Comment ça peut se faire? Comment ça peut s'imaginer pour l'instant?
C'est une question qui est très dure. Je suis en plein dedans parce que j'ai un groupe de copines qui me mettent un petit peu, je pense que je peux dire un peu les mots hard, enfin cru, elles me mettent un petit peu le coup de pied au cul. Donc j'ai un groupe de copines qui ont pris un petit peu le lead. J'ai eu une étape l'été dernier où quelqu'un a pris contact avec moi et je me suis dit, allez, essaye de voir où ça va, juste histoire de discuter. Et donc j'ai eu une grosse étape de plusieurs jours de culpabilité où rien que de discuter avec cette personne, ça me faisait énormément pleurer. J'avais vraiment l'impression de le tromper, en fait. Mais voilà, l'étape étant passée, j'ai l'impression que donc je me répète, mais l'étape rencontre discussion, elle est ok.
D'accord.
Aujourd'hui, je pense que je suis ok pour ça parce que ça ne m'engage en rien. Je fais qu'aller discuter et j'arrive à plus trop culpabiliser. Donc la démarche de mes copines, ça a été de me mettre sur un site de rencontre. J'aurais jamais pensé être là-dessus un jour. Mais du coup, ben, je me prête au jeu et je discute. Et pour l'instant, je le vis. J'essaye de beaucoup, beaucoup m'écouter, en fait.
D'accord.
Si vraiment la culpabilité revient ou pas, je stoppe et puis on attendra un moment. Mais pour l'instant, voilà, ça a l'air d'aller et c'est gentil.
D'accord.
Mais par contre, voilà, le sujet va devoir être annoncé à un moment donné. Ça, je me refuse catégoriquement d'en parler sur ce genre de site. Ça, je trouve ça extrêmement déplacé.
Ah, de parler aux personnes que tu rencontres, que tu as eu.
J'ai cette situation-là. Parce qu'il y en a à qui ça peut, je pense, effrayer aussi. Parce que pour moi, c'est impossible de construire quelque chose de nouveau sans Jérôme. Si je rencontre quelqu'un, il faudra qu'il l'accepte dans sa vie aussi. Parce que de son vivant, je parlais beaucoup de lui, j'étais très fière de lui. Et depuis qu'il n'est plus là, moi, je parle toujours autant de lui. C'est comme le maintenir en vie, mais voilà, je suis toujours autant fière et j'ai besoin de parler de lui, de ce qu'on a vécu, c'était merveilleux. Donc j'aurais besoin d'en parler, il faut avoir quelqu'un qui soit prêt à accepter ça.
D'accord.
Et ça, j'ai pas la réponse. Je sais pas si c'est possible.
Écoute, ça fait partie des mystères de la vie, des surprises du quotidien, et tu verras effectivement dans le futur ce que tu veux vivre, jusqu'où tu peux aller et à quelle temporalité, en fait. Mais c'est une étape que tu as apparemment franchie déjà d'accepter.
Elle est en cours. C'est compliqué parce que vu que je ressens toujours rien, je sais pas à quel moment ça va s'éveiller et que je vais pouvoir avoir peut-être les fameux papillons ou quelque chose qui se passe dans mon corps sur une personne. Je ne sais pas si ça va se réveiller.
Et ça, tu continues, là on arrive quasiment à la fin de l'émission, tu continues à travailler sur ce, entre guillemets, lâcher prise, sur cette étape de ta vie et accepter d'ouvrir une nouvelle page amoureuse. Tu es accompagnée
Là, plus avec des proches pour l'instant.
D'accord.
Ouais.
D'accord.
News FM.
Bonne soirée. Il est 20h.
Il est 20h, c'est parfait. D'accord, d'accord. Et quand tu dis, on va terminer là-dessus parce que l'émission se termine, mais quand tu dis que tu ne ressens rien, quand tu discutes avec quelqu'un, il n'y a pas un petit quelque chose de... Pas pour l'instant.
Non.
D'accord, c'est encore
les
trop
seules
tôt pour
fois
ça.
Où des émotions rejaillissent, c'est quand je reçois un signe.
D'accord.
Et que du coup, je sais que c'est lui, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et là, ouais, je revis quelque chose à l'intérieur.
D'accord. Donc pour l'instant, tu es encore vraiment connecté avec lui. Ok. Et du coup, juste pour terminer, parce que tout à l'heure, moi, c'est un sujet qui me passionne et je trouve ça incroyable, tu dis que tu as connu un éveil. Mmh. Voilà, un éveil spirituel. Mmh. Tu le vis dans ton quotidien, enfin, c'est une donnée que tu as intégrée au jour d'aujourd'hui dans ton quotidien
Oui, je pense que je reste encore. Je pense qu'on est loin, très loin de savoir tout ce qui se passe autour de nous.
Clairement.
Donc en fait, pour moi, je suis même rien qu'au début, alors que j'ai fait un bond immense déjà. Mais je pense que je suis au début.
Ouais.
Mais voilà, j'ai pu ressentir des choses, j'ai pu voir des choses. Ce qu'il a réussi à me faire vivre pendant 2 ans pour montrer qu'il était là, c'est juste... Enfin, à un moment donné, on ne peut pas. On ne peut plus mettre ça sur le hasard ou autre, c'est juste impossible.
Ouais.
Impossible.
Et est-ce que tu dirais, pour terminer, pour trouver... Parce que je sens poindre un troisième... comment dire des fois, je n'utiliserai pas forcément les bons termes, mais un troisième... une gratitude par rapport à cette situation, donc qui était effectivement déjà le fait d'être plus autonome, de t'être apaisé par rapport à la mort en tant que en tant que peur viscérale de tout être humain, et peut-être cet éveil à la spiritualité, à tu vois une quête de sens, et c'est un enrichissement. Pour moi, je trouve que c'est vraiment enrichissant tous les jours de découvrir les mystères, tu vois, d'aller plus loin dans la découverte de qui on est sur cette terre, au-delà de la terre, et d'aller se nourrir de ça. Moi, je trouve que c'est avoir vécu avant sans ça et aujourd'hui vivre mon quotidien avec ça, c'est d'une richesse infinie. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi que tu as touché du doigt au travers de...
Et c'est une question qui est très dure à répondre, du coup, à savoir pourquoi j'ai vécu ça, dans quel but, et qu'est-ce que je dois en faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi pour ça que je suis là. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est des témoignages de certaines personnes, de pouvoir savoir qu'on n'est pas seul, ça aide. Et pour moi, il y avait déjà rien de trop tabou dans ma vie, mais du coup, aujourd'hui, la mort, c'est un sujet principal pour moi. Et la mort, je ne comprends pas pourquoi c'est un sujet tabou et qu'on ne peut pas en parler facilement, parce qu'on y est tous destinés. Donc pourquoi ne pas en parler de l'entrée ? Et j'ai le sentiment que je dois partager. J'ai des choses à dire et je dois partager pour aider, du coup, maintenant que j'ai un petit peu de recul, même si j'ai encore du deuil à faire, partager le trauma et le drame que j'ai vécu, le deuil et comment le surpasser.
Et comment tu ferais ça ? Est-ce que tu as l'intention de créer une association ? Est-ce que tu as déjà un site internet, une page Facebook ?
Non. En fait, pour l'instant, je pense qu'il y a l'écriture d'un livre. Parce que j'ai suivi donc les conseils d'une de mes psychologues qui m'a dit d'écrire à chaque fois tout ce que je recevais comme signe ou autre.
D'accord.
Donc j'ai déjà pas mal d'écrits sur tout ce qui m'arrive pour essayer pas de le prouver, parce que j'ai rien à prouver à personne, mais pour moi, reconstruire le puzzle et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Oui.
Et donc, j'ai déjà tout ça qui est répertorié sur un fichier Word. Donc, d'accord. On verra si un jour, un petit peu comme elle a fait Madame Pernaud, en fait, qu'elle vient de sortir, en fait, quand elle l'a sortie, je suis c'est complètement ça, en fait. C'est pourquoi pas. Et puis, l'idée de l'émission, c'est pour ça que je t'avais demandé si mon sujet pouvait être intéressant, parce que, pareil, ça peut... certainement dans les auditeurs, avoir des personnes endeuillées et de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il faut pouvoir en parler sans tabou, en fait.
Est-ce que tu serais OK si potentiellement j'ai des retours d'auditeurs ou d'auditrices qui ont traversé cette situation ? Est-ce que tu vous connectais peut-être ? Est-ce que tu aurais des... est-ce qu'il existe... Tu as été connecté à des associations qui t'ont... Il y a eu une démarche très personnelle, vraiment individuelle, avec des rencontres, tu vois, hypnose, machin, etc.
J'ai cherché une association pour les... Alors, veuve.
Ouais.
Mais étant donné qu'on n'était pas mariés, je me suis fait un petit peu rejeter.
D'accord.
Et puis, il m'expliquait qu'on a quasiment que des personnes âgées, ils ne vont pas vous comprendre pourquoi vous êtes là. J'ai été très déçue par ça.
D'accord.
En tout cas, sur la région grenobloise, je n'ai pas trouvé une association pour pouvoir m'aider sur les échanges. Je voulais pouvoir parler avec des endeuillés... et j'ai pas pu.
D'accord. Et est-ce que l'idée là éventuellement, si peut-être j'ai une personne qui me contacte, est-ce que bah, je te contacte avant, mais mm-hmm. peut-être créer peut-être un moment d'échange, ok, ça peut être, ça peut être l'idée.
Moi j'ai tellement cherché ça, donc j'ai trouvé plus des groupes sur Facebook pour pouvoir en parler. Il y a beaucoup de groupes de deuil ou de veufs et de veuves, et mais ça m'a beaucoup aidée, donc je suis complètement.
Ok. Bah, écoute, avec plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de réagir sur le témoignage d'Éline, vous pouvez effectivement donc sur la page News FM Couple ou 06 15 94 36 51, donc soit un appel, soit un SMS, et puis je pourrai vous connecter avec Éline. Si vous avez envie de participer la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas à me contacter, trouver des sujets qui vous intéressent. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous reçois soit en plateau comme Éline ce soir, soit par le téléphone de la radio. On va se laisser tranquillement terminer cette émission avec le petit jingle que vous commencez à connaître. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Éline, on en parlait pendant la coupure, mais on se revoit dans quelques semaines ou dans quelques mois avec grand plaisir. Si tu as envie de venir nous partager ton évolution, ce qui s'est passé depuis cette première rencontre aujourd'hui, voilà, tu es la bienvenue et un grand merci pour ton témoignage.
Bah, merci à toi et avec plaisir, sincèrement.
Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée.
Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre.
Si j'en ai perdu la tête, je t'ai aimé et même pire, tu es venu en sifflant.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un